CQFD.
On est toujours en direct dans CQFD du Jardin Botanique de Neuchâtel et toujours, notamment avec Caroline Reverdy, spécialiste des saveurs et des senteurs, qui va intervenir ici mercredi prochain avec quelque chose qui s'intitule « Quand mon œil et ma bouche se mettent d'accord ». Alors, on a fait une expérience tout à l'heure avec deux fromages blonds où en fait, il y avait les mêmes choses dedans, mais simplement, il y avait deux couleurs différentes, donc on s'est tous à peu près trompés. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va goûter ?
Alors, je vous ai préparé une petite boisson. Mais pour cet exercice, au départ, vous allez la boire en vous bouchant le nez.
Voilà, en tenant le micro, ça va être très pratique. On va devoir poser le micro.
Prenez une gorgée en vous bouchant le nez. Vous pouvez l'avaler. Voilà. Est-ce que vous avez senti quelque chose ?
À peine un tout petit peu d'acidité, mais vraiment pas grand-chose.
En final, oui, quelque chose de très faible.
D'accord.
On dirait de l'eau.
Ouais, on dirait de l'eau, d'accord. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on débouche le nez, c'est là que des saveurs arrivent.
Alors, ce sera la deuxième partie de l'exercice. Effectivement, je vous demande de le boire normalement, c'est-à-dire sans vous boucher le nez, tout simplement.
Et j'ai... Là, c'est très clairement citronné.
C'est citronné.
Enfin, agrumé, en tout
cas.
Oui,
de la menthe.
De la menthe. Donc, vous avez plus senti quelque chose que tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal, puisque... Cette fois-ci, ça peut faire appel d'air et donc les arômes qui sont dans la bouche peuvent remonter jusqu'au niveau du nez et puis être perçus par l'odorat. C'est alors qu'on va donc sentir les arômes agrumes, citronnés, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y avait autre chose que ces arômes ?
Non, franchement pas.
A priori, d'accord, pas. Ok. C'est donc vraiment une manière de voir... comment on perçoit l'arôme agrume. Et si on avait eu une saveur acide, on l'aurait senti précédemment, c'est-à-dire au moment où on avait le nez bouché.
Ah oui, mais c'est vrai que là, on a vu tout à l'heure les interactions entre les yeux et le goût, en fait. Et maintenant, entre l'odorat et le goût, en fait, tout va avec tout, un peu comme dans l'évolution des plantes. Blaise Mulanzer, on revient vers vous. On va vous retrouver tout à l'heure, Caroline Reverdy, pour une dernière expérience. Je dirais, Blaise Mulanzer, donc directeur de ce jardin botanique, instigateur de ce fameux jardin de l'évolution. Juste à côté de nous, il y a un lotus. Ah, d'accord. Mais vous l'avez mis, en fait, on l'avait mis très loin des nénuphars. Pourtant, il me semble que ça se ressemble, non ?
Oui, alors là, c'est vraiment une... évolution adaptative, ces deux plantes ont trouvé la même solution pour pouvoir favoriser la photosynthèse avec c'est des plantes aquatiques, mais qui ont des feuilles flottantes à la surface de l'eau, qui leur permet justement d'avoir une photosynthèse améliorée et aussi de soutenir toute la plante grâce à ces grands flotteurs que sont les feuilles. Par contre, elles ne sont pas du tout de la même famille botanique.
Ah bon ?
Les nénuphars sont des plantes plus primitives que le lotus sacré, qui est dans une famille qui est plus proche des platanes.
Des platanes, carrément.
Oui.
Ah bon, d'accord. Bah, franchement, les voir comme ça, on dirait que c'est vraiment les mêmes, quoi.
Oui, alors c'est toute l'histoire en fait de la classification phylogénétique, c'est-à-dire cette étude génétique qui permet de mieux comprendre les liens de parenté entre les plantes. Et ces études génétiques ont permis de montrer que le lotus sacré était plus proche des platanes et surtout très éloigné des nénuphars. Et on a pu confirmer cela aussi par des caractères morphologiques. Donc les deux techniques, la botanique classique qui se basait sur la morphologie et la nouvelle manière de travailler sur la génétique des plantes se sont rejointes. Les grains de pollen du lotus sacré sont des grains à trois ouvertures, pour parler simple, alors que les nénuphars n'en ont pas. Donc les pollens sont totalement différents.
Ah oui, d'accord.
Alors ce jardin, Blaise Mulanzer, c'est vraiment un extraordinaire laboratoire à ciel ouvert. Vos étudiants viennent ici aussi faire de la recherche ?
Alors on a surtout les étudiants en botanique qui viennent, grâce justement au professeur de botanique, Jason Grant, qui amène ses étudiants pour essayer de comprendre cette nouvelle classification phylogénétique. Et puis on espère que les autres laboratoires de l'Université de Neuchâtel puissent venir aussi travailler dans ce jardin.
Et vous aussi, Saskia Binchedler, vous venez gratouiller les sols du jardin avec vos étudiants ?
Mais alors, malheureusement pas. C'est en venant ici que je me dis que peut-être qu'on devrait.
Bah oui, vous devriez.
C'est plus d'une vocation.
Non, mais c'est intéressant parce que juste derrière nous, caché un tout petit peu plus loin du jardin de l'évolution, Blaise Müllhauser, vous avez créé une tourbière. C'était en septembre dernier. C'est une très belle tourbière. Pourquoi ?
Alors, c'est une petite tourbière qui nous permet de travailler sur les études climatiques. C'est une collaboration entre l'Université de Neuchâtel, le laboratoire de biologie du sol du professeur Mitchell et le jardin botanique de Neuchâtel. Cette étude sur les climats, elle est très intéressante parce que la plupart des gens imaginent que le climat, c'est d'abord une histoire aérienne. Et en fait, la plupart du temps, ça vient du sol de nouveau. Selon comment on traite notre sol, qu'il soit érodé ou qu'il disparaisse ou bien qu'il soit tassé, il va y avoir une activité biologique qui est plus ou moins grande. La tourbière, l'intérêt, c'est que c'est un milieu aquatique, presque aquatique en fait. Pour qu'une tourbière puisse bien fonctionner, il faut que le niveau de l'eau soit toujours affleurant. Et comme il manque de l'oxygène dans ce sol, eh bien le carbone va rester piégé dans le sol. Donc le carbone, gaz carbonique, gaz à effet de serre, bref, vous avez
notamment
compris.
Notamment dans les tourbières.
Alors, autre mission de ce jardin botanique, parce que bon, il est beau, il y a la recherche, et puis il y a aussi la conservation, Blaise Müllhauser. On ne s'échange plus les graines comme on les échangeait avant. Il y a notamment la Convention de Rio. En 92 sur les biodiversités, qui fait que c'est pas si simple d'échanger et de conserver des graines.
Non, alors effectivement, maintenant c'est beaucoup plus compliqué et je dirais c'est tant mieux aussi, puisque l'une des principales activités des jardins botaniques, c'est de conserver un matériel génétique qui puisse être remis dans la nature. Et c'est tout le grand programme qui est mis en place par le réseau des jardins botaniques du monde de conserver notamment les graines, mais aussi les plantes que nous pourrions remettre dans la nature une fois qu'un milieu qui a disparu serait recréé.
Et parce que risque de pillage aussi.
Alors justement, ça c'est la convention, le protocole de Nagoya qui a été mis en place en octobre 2014, qui essaye de faire en sorte que les ressources génétiques soient partagées par tous. Et c'est par le réseau des jardins botaniques que ces ressources peuvent être mieux comprises, étudiées, et puis que les connaissances peuvent être partagées.
Et tout le monde pourra les partager à l'occasion de Botanica, hein, dont 20 jardins botaniques à partir de demain et pour une semaine. La thème de cette 9e édition, Stéphane Letro l'a dit, c'est la couleur et les plantes. Et nous avons avec nous par téléphone Didier Roguet, qui est conservateur du jardin botanique de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez inauguré le mois passé votre nouvelle expo qui s'appelle Plantes et spiritualité, qui est à voir jusqu'en octobre. À votre avis, ce serait quoi la couleur de la plante liée à la spiritualité ?
Il y a une plante qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la tagette, un peu une plante genevoise par excellence, ou qu'on croit telle, mais c'est en fait une plante originaire du Mexique, qui joue un rôle fondamental dans la fête des morts, par exemple en novembre au Mexique, on en fleurit tous les cimetières, etc. Et c'est paradoxalement une plante qui a émigré et qui a été colonisée par sa couleur, qui est la couleur sacrée de l'hindouisme, toute l'Asie. On la retrouve sur les tuniques des moines bouddhistes, bien évidemment, mais dans tous les temples hindous, on a des offrandes de tagettes, de guirlandes de tagettes merveilleuses. Symbole du renoncement, symbole de pureté, etc. Donc c'est une plante assez fascinante, hein, plante horticole chez nous, mais qui a une dimension tout autre, spirituelle, dans d'autres coins de notre belle planète.
Alors vous dites orange, l'hindouisme. J'ai le sentiment, Didier Roguet, que lorsque on parle du christianisme, par exemple, c'est du blanc. On
ça peut être du blanc, oui, ça peut être du blanc, ça peut être de la pureté, mais ça peut être aussi du rouge. La rose rouge est la plante du Christ, donc il y a des couleurs en effet associées assez souvent à des religions, à des spiritualités, oui, tout à fait.
Mais dans la spiritualité, c'est vrai, notamment en Asie, on offre beaucoup de fleurs aux dieux divers. Est-ce que chez nous, ça a été chez nous aussi, quand on se marie, on offre des fleurs, etc., etc. C'est uniquement l'utilisation des plantes dans le spirituel, c'est uniquement ça, ou aussi on les utilise pour leurs bienfaits médicinaux?
Donc c'est la plante est un vecteur universel, omniprésent dans toutes les religions et toutes les spiritualités. Donc on a en effet cette fonction technique de couleur, mais elle peut être aussi de senteur, elle peut être de fumée, elle peut être symbolique, elle peut être aussi technique avec la verticalité, les arbres en l'occurrence, par exemple on pense aux cyprès, des cimetières, cette espèce de verticalité qui va du tréfonds jusqu'à l'au-delà et qui emmène en fait nos prières, nos pensées, l'âme des défunts par exemple, vers l'au-delà. Donc il y a toute cette symbolique-là, puis il y a aussi le vecteur chimique. dans certaines religions, en particulier le chamanisme, pour ne pas le citer, on a une utilisation très claire de substances psychotropes pour se mettre dans une situation telle qu'elle fasse qu'on puisse communiquer ou qu'on croie communiquer avec des visions, avec des transes chamaniques, hallucinatoires, avec l'au-delà. Donc ces substances ont un effet direct sur notre organisme et modifient notre perception.
En fait, les plantes, c'est un peu le dénominateur commun de toutes les religions et spiritualités, en quelque sorte.
C'est clair, c'est ça qui est fascinant quand on creuse un peu le sujet, ce qu'on a fait ici, en l'état, pour cette exposition, et c'est tout à fait fascinant, ouais, cette omniprésence, cette universalité, et ces convergences qu'on trouve. On parlait de la tagette tout à l'heure, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Hein. Cet aspect aussi pacificateur, souvent. On peut penser à l'olivier, par exemple, qui est une plante reconnue dans toute l'idiosyncrasie méditerranéenne comme étant une plante de bienfait, une plante, mais qui a également ses paradoxes, puisque c'est aussi une plante liée à la guerre, etc. Donc c'est assez intéressant, toute cette thématique.
Merci Didier Roguet. Je rappelle que vous êtes conservateur du Jardin botanique de Genève, qui participe évidemment à Botanica, et où on peut voir en plus cette expo qui s'appelle Plantes et spiritualité. Très bonne journée à Genève.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.
Bess Müller-Zier, vous auriez dû vous lui prêter votre lotus sacré, là. Ça aurait pu lui être utile.
Je sais qu'ils ont des magnifiques lotus sacrés à Genève. Ouais.
Alors, il nous reste juste 2 minutes pour une expérience avec vous, Caroline Reverdy, vous qui êtes spécialiste des saveurs et des senteurs. Ça va être un tout petit peu plus long. Alors, on a mangé du fromage blanc, on a bu un liquide agrumé tout à l'heure. Cette dernière expérience, qu'est-ce que c'est?
Alors, je vous ai préparé plusieurs infusions de plantes à base de verveine. Et vous avez aussi à côté de vous une petite grille avec plusieurs petits smileys pour dire si vous aimez beaucoup, un peu ou pas du tout. Donc je vous laisse goûter ces 4 petites recettes.
Dans l'ordre?
Alors, pendant que tout le monde le fait, dans l'ordre, oui?
Oui, dans l'ordre. Voilà.
Pendant que tout le monde le fait, il y a devant nous 4 petits gobelets notés A, B, C, D. Le A est quasiment translucide, un peu jaune comme ça. Le B est un peu rosâtre, le C est franchement beaucoup plus rose et le D tourne un peu vers le jaune rose comme ça. Donc je laisse mes petits collègues goûter et noter. Ils ont à côté effectivement cette fiche avec des petits smileys. Et donc on va voir ce qu'ils en retirent de tout ça.
Allez, on va être gentil. Il n'y avait rien de vraiment dégueulasse. D'accord. On va le dire comme ça.
J'espère.
Moi, j'aurais eu tendance à le mettre un peu tous la même chose. Là.
Un peu tous la même chose, oui.
Oui, on est dans du mezzo. Allez.
D'accord.
Ouais, très légèrement sucré.
Un peu doucereux comme ça. Écoutez, voilà. Rien qu'à regarder, moi, je n'ai pas goûté. Hein. Et si j'imagine maintenant le goût que ça peut avoir... Je vois quelque chose comme ça, un peu comme un petit peu sirupeux, un petit peu doucereux, mais rien qu'à l'œil. Donc, je ne sais pas, peut-être que j'en sais rien.
C'est oui, comme avec ça. Un tout petit peu de sirop, un petit peu sucré, mais rien de saillant. Difficile à donner un goût.
D'accord. Oui, c'est une infusion assez légère. Et ce que je voulais vous démontrer à travers cet exercice, c'est que finalement, quand on voit une boisson, on a une attente par rapport à la couleur. Et en fonction de cette attente, si ça correspond ou non, notre préférence, elle va être légèrement modifiée. C'est-à-dire que si ça correspond à ce qu'on attend, on va plus apprécier, alors que si, par exemple, on a une couleur rouge forte pour cette infusion de plantes qui peut nous surprendre, du coup, on est un petit peu déstabilisé, on a un peu tendance à moins bien aimer. De la même manière, lorsque une plante n'est pas d'une couleur attendue, ça nous trouble.
Par exemple, là, si je prends le gobelet A que j'ai pas encore goûté, c'est légèrement un petit peu jaune, donc j'imagine que ça doit être un tout petit peu citronné. J'aime bien ça généralement, je goûte. Ça l'est pas du tout, je trouve ça pas bon, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment ça que vous vouliez prouver, en Kéros. Blaise Mélanzer.
Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de manger une fois une fondue bleue, c'était pas génial.
Voilà.
Alors c'est vrai que j'ai eu une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de faire de goûter deux vins du même endroit, etc. Un blanc, un rouge, les yeux bandés. On était 10, il fallait juste dire lequel était le blanc, lequel était le rouge, et il y en a 7 qui se sont trompés. Parce que c'est fou, c'est fascinant, c'est tout le temps comme ça.
Oui, c'est fou parce qu'on se dit non, je vais pas me faire avoir, et en fait quand on fait l'expérience, c'est pas si facile.
Sarah,
comment se fait-il que lorsque je me bouche le nez, ça a le même goût? Alors que tout à l'heure, je me bouchais le nez, j'avais pas le même goût.
Alors, c'est parce que dans celui-ci, j'ai mis un petit peu de sucre. Donc, quand on se bouche le nez, on perçoit seulement les saveurs qui sont perçues par la langue. Donc, sucré, salé, acide, amer et umami. Et là, ils ont tous ce goût sucré.
Donc. Est-ce que vous savez pourquoi, je pose la question à tous les trois en fait, dans certains restaurants maintenant on commence à aussi mettre des fleurs avec la nourriture et des fleurs qui se mangent?
Je pense que c'est effectivement une image appétante qui donne envie de manger la salade.
Tout simplement. Pourtant, les goûts sont pas extraordinaires. Pourtant, les fleurs sont très colorées et elles ont souvent peu de goût.
Oui, mais c'est vrai qu'un plat appétissant favorise l'appétit par rapport à un plat qui serait moins décoré.
Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on dit aux cuisiniers, mettez, si possible, plusieurs couleurs différentes sur votre assiette, parce que si c'est tout plat, ça nous paraît fade, même si ça ne l'est pas.
Tout à fait, oui.
Donc, moralité, on mettra un restaurant ici, au milieu du Jardin de l'Évolution.
Exactement, exactement. On va pas le faire aujourd'hui, puisque CQFD touche à sa fin. Hein. Il est 10h58 et presque 30 secondes. Cette émission spéciale Botanica, et aussi pour le Jardin de l'Évolution à Neuchâtel, ça va se terminer maintenant. On va encore dire merci, bien entendu, à nos trois invités. Donc, Blaise Mulhauser, le directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, puis à toute son équipe aussi, qui nous a super bien accueillis.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais. On va dire aussi merci à Saskia Binchedler, maître assistante à l'Université de Neuchâtel, et à Caroline Reverdy, spécialiste des saveurs et des senteurs. Pour tout savoir sur Botanica, sur tous les jardins botaniques, etc., il y a des liens qui sont sur notre page www.rts.ch/CQFD. Oui, Stéphane ?
Je dirais aller sur l'île de Brissago.
Oui,
voilà, conseil du jour.
On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un superbe jardin botanique. Avec nous ici à Neuchâtel, en régie, il y avait Jérôme Nisbaum et Alexandre Dubin. Quant à tout le reste, les jingles, les disques, ils ont été assurés par Jean-Claude Gailly de Pilezanne. Donc cette émission a été préparée par Sarah Diren et Stéphane Delettreau.
CQFD, Silvio Dolzan.